Nous louons ensemble le Seigneur. Nous te louons, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, car tu n'as pas dédaigné d'être appelé notre Père. Tu tiens le monde dans tes mains, mais tu nous connais par notre nom. Tu es béni, Créateur de tout ce qui existe. Tu es béni, toi qui nous as mis au large et qui nous donne à vivre dans ce temps. Nous te rendons grâce pour les œuvres de tes mains, pour tout ce que tu as fait parmi nous, par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Entendons maintenant la volonté de Dieu pour nous aujourd'hui. Veillez, dit le Seigneur, car vous ne connaissez ni le jour ni l'heure. Aujourd'hui, dans cette incertitude sanitaire, sécuritaire, Seigneur, donne-nous cette force de veiller, pour ne pas manquer ton arrivée dans nos vies. Et cette volonté de Dieu que nous avons entendue à l'instant nous conduit à reconnaître que nous avons parfois bien du mal à veiller. Père, nous voulons te dire notre désarroi devant la souffrance du monde et reconnaître notre responsabilité, car la manière de vivre que nous avons ne transforme pas ce monde. Pardonne-nous d'agir comme des égoïstes et ne pas toujours aimer notre prochain. Pardonne-nous de t'aimer si mal, d'attendre toujours tes services au lieu d'être à ton service d'abord. Pardonne-nous d'oublier que le vrai bonheur est de t'aimer et te servir. Accorde-nous ton pardon, qu'il soit notre paix, notre joie et notre force. Nous te le demandons au nom de Jésus-Christ. Amen. Et voici la bonne nouvelle du pardon de Dieu. Dieu est amour. Il entend la confession de notre cœur. Par Jésus-Christ, notre péché nous est pardonné. Par le Saint-Esprit, la puissance de vie nouvelle nous est accordée. Que Dieu nous mette au cœur l'assurance de son pardon et qu'il nous donne de marcher vers son royaume. Amen. Nous allons ouvrir la Bible. Et nous prions Dieu avant de lire les Écritures, afin que celles-ci deviennent pour nous paroles de vie. Père, toi qui, par ton esprit, assemble les croyants en tout lieu de ce monde, inspire celles et ceux qui parlent et rends attentifs celles et ceux qui écoutent, afin que l'Évangile soit la vérité de notre foi, la source de notre amour, la fermeté de notre espérance. Amen. Et nous lisons ce matin, d'abord dans la première lettre aux Thessaloniciens, Au chapitre 4, les versets 13 à 18. Paul dit, frères et sœurs, nous voulons vous faire connaître la vérité au sujet des morts. Ainsi, vous ne serez pas tristes comme les autres qui n'ont aucune espérance. Nous croyons que Jésus est mort et qu'il s'est relevé de la mort. Donc, de la même façon, ceux qui sont morts avec Jésus en croyant en lui, Dieu les réunira à Jésus. Oui, voici ce que nous disons d'après une parole du Seigneur. Nous qui serons encore vivants quand le Seigneur viendra, nous ne passerons pas avant ceux qui sont morts. On entendra un signal, la voix du chef des anges, le son de la trompette de Dieu. Alors le Seigneur lui-même descendra du ciel. Ceux qui sont morts en croyant au Christ se relèveront de la mort les premiers. Ensuite, nous qui serons encore vivants, nous serons emportés ensemble avec eux sur les nuages, en montant vers le Seigneur pour le rencontrer. Et ainsi, nous serons avec le Seigneur pour toujours. Alors encouragez-vous les uns les autres avec ces paroles. Et la seconde lecture est dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 25, les versets 1 à 13. Alors, le royaume des cieux ressemblera à ceci. 10 jeunes filles prennent leur lampe et elles sortent pour aller à la rencontre du marié. 5 d'entre elles sont imprudentes. Et 5 d'entre elles sont sages. Les jeunes filles imprudentes prennent leurs lampes, mais elles n'emportent pas de réserve d'huile. Les jeunes filles sages prennent leurs lampes et elles emportent de l'huile dans des récipients. Le marié ne vient pas tout de suite. Toutes les jeunes filles ont sommeil et elles s'endorment. Au milieu de la nuit, on entend un cri. « Voici le marié, sortez pour aller à sa rencontre. » Alors toutes les jeunes filles se réveillent et elles préparent leurs lampes. Les imprudentes disent aux sages, « Nos lampes s'éteignent, donnez-nous un peu de votre huile. » Mais les sages leur répondent, « Non, il n'y en a pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez les commerçants. » Et achetez de l'huile pour vous. Les imprudentes vont donc acheter de l'huile. Mais pendant ce temps, le marié arrive. Les jeunes filles qui sont prêtes entrent avec lui dans la salle du mariage et on ferme la porte. Plus tard, les autres jeunes filles arrivent et elles disent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous la porte !» Mais le marié répond « Je vous le dis, c'est la vérité, je ne vous connais pas. » Et Jésus ajoute, « Restez donc éveillés, parce que vous ne connaissez ni le jour, ni l'heure. » Chères sœurs et frères, le confinement est de nouveau d'actualité et nous pouvons nous poser un certain nombre de questions face au monde dans lequel nous vivons, comme les disciples auxquels Jésus enseigne, comme les chrétiennes et chrétiens de Thessalonique auxquels Paul écrit. Que deviendrons-nous demain, après-demain, l'année prochaine? Allons-nous pouvoir célébrer la naissance du Christ comme nous en avons l'habitude? Ou bien ce Noël sera-t-il encore chamboulé? Combien de nos proches allons-nous perdre de maladie, d'isolement, de surmenage ou autres conditions fort peu naturelles. Je ne sais pas si nous aurons des réponses, mais nous pouvons faire ce matin des voyages dans le temps entre enseignements du passé, questions du présent et promesses du futur. Reposons le contexte de cet extrait d'évangile, puis essayons de voir toutes les questions, pas forcément logiques, que pose ce texte, avant d'envisager comment nous pouvons nous aussi garder la lumière dont il est question. Au fil des dimanches, en suivant notre lecture dans l'évangile de Matthieu, nous avons exploré les différentes manières que Jésus a de présenter le royaume de Dieu à ses disciples, à travers de nombreuses paraboles. Cet enseignement en parabole se fait en parallèle dans l'Évangile, au chemin que fait Jésus depuis sa Galilée natale vers Jérusalem. Suite à son entrée dans la ville de Jérusalem, il essuie plusieurs controverses avec les personnes qui s'opposent à lui, que l'évangéliste groupe sous les noms des scribes, pharisiens, maîtres de la loi. Ces controverses trouvent un point d'orgue avec la proclamation du commandement d'amour que nous avons travaillé il y a quelque temps. Enfin, les derniers chapitres de l'Évangile laissent la place à un discours sur la fin d'une ère, la fin d'un temps, la fin des temps. C'est le retour, vous l'avez entendu, du royaume de Dieu, le royaume des cieux, non seulement annoncé comme dans le chapitre 13, mais ici présenté comme très proche, imminent, avec des signes qui ne trompent pas. Ici, nous retrouvons une scène de jugement, avec un destin cruel pour les personnes qui seront écartées à première vue, comme le fait le fiancé qui clôt la parabole avec l'expression terrible « Je ne vous connais pas ». Dans cette parabole d'aujourd'hui, il est question de parousie. Encore un gros mot des théologiens. La parousie, c'est l'événement attendu tant par les juifs que par les chrétiens, mais pas nécessairement de la même manière. Il s'agit de l'advenue du Messie, et donc de la fin du monde tel que nous le connaissons, pour laisser véritablement la place à un règne différent, à une existence idéale et promise. Il s'agit d'un événement toujours imprévisible, comme Matthieu le dit à d'autres endroits dans l'Évangile, aussi difficile à anticiper qu'un cambriolage, une pandémie ou un énorme retard du fiancé lors de ses noces. Cette histoire fait également écho à l'extrait de la lettre aux Thessaloniciens que nous avons lu tout à l'heure. Cette lettre parle aussi de parousie. Les premières chrétiennes, les premiers chrétiens pensaient que le retour annoncé de Jésus ressuscité serait extrêmement rapide. Pour eux, le fait que Jésus soit venu au monde, qu'il ait vécu parmi eux, était le signe annonciateur de cette fin du monde promise aux Juifs. Jésus était le Messie, et il allait revenir très vite pour mettre fin à ce monde bien trop cruel, cynique, terrible. Quelle ne fut pas leur déception quand ils virent que non seulement Jésus tardait à revenir, mais aussi que leurs proches commençaient à disparaître. Qui donc allait ressusciter avec le Christ? Qui allait pouvoir accéder au royaume des cieux? Aujourd'hui, peut-être nous posons-nous les mêmes questions. Cette fin du monde est-elle pour maintenant? entre les conséquences d'une énorme explosion à Beyrouth, les attentats commis par des extrémistes de tous bords, ce virus qui se propage sans que l'on sache même exactement comment. Nous avons foison de sujets d'inquiétude. Et si la parousie n'est pas pour maintenant, quand sera-t-elle? Que devons-nous faire? Ayant posé le contexte de parousie, l'idée de la fin d'une ère présente à la fois pour l'évangéliste Matthieu et les chrétiennes et chrétiens de l'Église primitive auxquels parle Paul. Reprenons notre récit de l'Évangile. En ce qui me concerne, j'ai toujours trouvé que cette parabole posait beaucoup plus de questions qu'elle n'éclairait de choses concernant l'arrivée du royaume de Dieu. Mes premières questions concernent les mariés eux-mêmes. Pourquoi le marié arrive-t-il si tard? Pourquoi ne parle-t-on jamais de la mariée? Il existe quelques versions des manuscrits qui portent la mention de la fiancée, mais ceux-ci sont si peu nombreux qu'ils sont vraisemblablement les marques d'un ajout postérieur à l'évangéliste. Il n'existe aucun rituel qui prenne autant de temps et retarde les principales personnes d'un mariage aussi tard, jusqu'à la moitié de la nuit. Ma deuxième question porte sur le genre des personnes présentes. Le texte parle de jeunes filles vierges, mais pourquoi ces jeunes filles attendent-elles le marié et non la mariée? Encore une fois, aucun rituel rabbinique décrit ne précise une telle coutume. Il est donc difficile pour nous, même en étudiant l'histoire, le contexte, de saisir les enjeux de l'attente. Un éclaircissement est peut-être à trouver dans le terme grec qui est également utilisé pour parler de jeunes hommes célibataires. Dans ce cas, les personnes qui se trouvent là et attendent le marié pourraient être les membres de son cortège, qui ne doivent pas être démunis de leurs attributs, à savoir la lumière. Troisième question, pourquoi les jeunes filles sages sont-elles désignées ainsi? Emmanuel Sibolt a ouvert le synode national il y a quelques semaines en reprenant cette parabole et en précisant que ces jeunes filles n'avaient aucune hypothèse raisonnable de penser qu'elles auraient besoin d'huile supplémentaire. Elles prennent leurs lampes, ces lampes ont leurs propres réserves et il n'y a pas de raison de penser qu'il y aurait un tel retard. Ainsi, les jeunes filles présentées comme sages dans le texte sont en réalité, dans le contexte apparent, folles, car elles n'ont aucune raison d'agir comme elles l'ont fait. Aujourd'hui, peut-être qu'on dirait que ces personnes sont parano, pessimistes de toujours envisager le pire. Ce n'est pas ces personnes qui seraient qualifiées de personnes avisées, mais plutôt des personnes qui savent toujours s'adapter à n'importe quelle condition. De même, pourquoi les jeunes filles imprudentes cherchent-elles des commerçants en pleine nuit? Pourquoi nous encourager à avoir un comportement qui n'est pas parmi les plus logiques? Quatrième question, pourquoi faut-il avoir de la lumière? Le texte ne le précise pas, pas davantage que les rituels que l'on peut trouver sur ce sujet. Comment la lumière constitue-t-elle un laissez-passer pour rejoindre la fête lorsque le marié arrivera? De même, il nous est peut-être difficile de comprendre comment il est impossible, selon les jeunes filles, de partager l'huile d'une lampe entre deux. On serait peut-être tenté de dire que les jeunes filles sages sont plutôt égoïstes, qu'il y a un manque de solidarité évident. La seule explication que j'ai pu apporter à ça réside dans une comparaison avec un outil plutôt moderne, un téléphone portable. Imaginez qu'au lieu d'une lampe, chaque personne soit munie d'un téléphone. D'ailleurs, le téléphone peut faire lampe. À force d'attendre, la batterie de certaines personnes va faiblir, voire s'arrêter. Les personnes qui peuvent encore avoir leur téléphone allumé ne pourront pas aider les autres. Puisque partager une batterie, ça implique forcément l'extinction d'un des deux téléphones. Cinquième question dans ma tentative de compréhension du texte. Il semble que l'attente du marié soit finalement plus importante que d'avoir de l'huile dans sa lampe. Que se serait-il passé si les personnes insensées, imprudentes, n'étaient pas allées chercher un commerçant, mais au contraire étaient restées pour voir et pour tenter leur chance d'accéder à la fête, de prendre la suite du marié? Peut-être que celui-ci aurait témoigné de son indulgence et aurait apprécié leur présence. En effet, la sécheresse du ton qui leur est infligée à la fin de notre parabole, « Je ne vous connais pas », souligne l'absence de ces jeunes filles lors du jugement, lors de l'entrée dans la fête, et non leur manque de matériel à l'occasion de ce même jugement, de ce même événement. Le constat est sans appel, il est trop tard. Le jugement a été pris, il n'est plus temps. Et si le marié avait lui-même ses propres réserves d'huile, peut-être qu'il aurait pu pallier. Ces multiples questions sur la logique du texte nous amènent à discerner le point central. La lumière et sa diffusion. Matthieu, dans le chapitre 5 de son évangile, au début du périple de Jésus, disait « Vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. » Ce n'est pas une promesse, ce n'est pas quelque chose qui va arriver, il n'a pas dit « Vous serez la lumière du monde. » C'est déjà le cas, il n'y a aucune condition. Il a dit « Vous êtes la lumière du monde. » Jésus a dit cela aux personnes qui le suivent, des personnes qui, comme nous, sont réunies pour l'écouter. Nous sommes, nous aussi, aujourd'hui, la lumière du monde. À chaque fois que nous écoutons ces textes et que nous les méditons, que nous cherchons sincèrement à en faire un outil de progrès dans notre vie, pour nous et pour les autres. À Jérusalem, point final de son voyage, de sa carrière et de sa vie même, Jésus évoque de nouveau la lumière. Dans l'obscurité, celle que nous vivons en cette fin d'automne où nous devons rester de nouveau chez nous pour protéger les plus sensibles d'entre nous, il nous faut garder cette lumière. C'est elle qui nous permet de continuer à nous voir les unes les autres, c'est elle qui nous permet de ne pas trébucher. C'est elle aussi qui rassure petits et grands au milieu des terreurs nocturnes. Cette lumière, comme il est dit dans le récit, c'est aussi ce qui permet d'avoir confiance et de s'autoriser à s'assoupir quand les temps se font trop longs, épuisants. Nous sommes la lumière. Nous brillons par nos gestes, par nos réflexions, par notre confiance en Dieu aussi. Cette lueur nous permet de ne pas être perdus et de ne pas perdre les autres. Peut-être que si chaque jeune fille qui avait une lampe avait accompagné une jeune fille qui n'en avait pas, elles seraient toutes arrivées à bon port. La lumière se partage, même si l'huile des récipients ne peut pas l'être. La lumière est contagieuse, il suffit pour réaliser cela de vivre la prière du samedi soir à Thésée par exemple. La lumière est transmise à toute l'assemblée par les frères qui sont au centre. Et en quelques minutes, l'Église scintille de centaines de petites lumières. Oui, ce texte nous dit qu'il est important de pouvoir conserver le nécessaire pour alimenter sa propre flamme. Nous sommes déjà lumière du monde. Que faisons-nous pour l'être encore demain, après-demain et jusqu'à la parousie? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qui est important pour moi pour que ma relation au Seigneur fasse briller ma vie? Est-ce que je suis engagée dans l'Église, dans une association, dans une action d'entraide? Est-ce que je prie? Est-ce que je chante? Est-ce que je lis la Bible? Est-ce que je sais ce qui me rend lumineux, lumineuse? Est-ce que je sais entretenir ma flamme? En conclusion, Jésus nous dit « Veillez, car vous ne connaissez ni le jour ni l'heure. » Comment aujourd'hui peut-on faire nos provisions d'huile pour veiller sereinement, alors que pour certaines personnes déjà éprouvées par le virus, par une autre maladie, par le premier confinement, ce doute sur l'avenir représente une nouvelle source d'angoisse? Comment faire? Peut-être qu'une piste consiste à s'arrêter, se poser, stopper le télétravail pendant quelques minutes, quelques dizaines de minutes, laisser partir les enfants à l'école, lire un texte biblique, une prière, écouter un chant, se laisser quelques minutes de réflexion. Faire confiance à Dieu et se faire confiance. Lâcher prise et laisser le Seigneur faire le reste. L'autoriser à remplir de nouveau notre réserve d'huile. Alors, nous brillerons. Amen.
Thank you.
Je vous invite à chanter ensemble le cantique 45-21, trouvé dans ma vie ta présence. Éclairés et rassemblés par la parole de Dieu, nous pouvons affirmer ensemble notre foi. Et c'est Antoine, ce matin, qui nous propose une confession.
J'ai confiance en Dieu, notre Père qui nous aime sans limite. Je crois que Jésus-Christ est le pain de vie. Il est le sauveur et le libérateur qui a vaincu la mort. J'ai confiance en l'Esprit Saint qui nous inspire, nous ouvre au pardon et nous unit. Je crois au royaume de Dieu et à l'amour plus fort que la mort. Je crois que nous avons été baptisés d'un seul esprit pour former un même corps, une communauté qui témoigne de la bonne nouvelle auprès de nos sœurs et de nos frères humains, une Église unie au Christ qui rassemble les enfants de Dieu, tous appelés à rejoindre leur Père. Je crois que Dieu m'appelle aujourd'hui à œuvrer à ses côtés pour vivre une vie pleine de sens et de joie, pour aimer et servir les autres, pour protéger sa création et sa merveilleuse diversité, pour rechercher la justice et résister au mal. Je crois que Jésus-Christ continue à agir chaque jour pour notre libération, et qu'il nous appelle à le suivre pour réconcilier le monde. je crois à la résurrection et à l'épanouissement de la vie. Amen.
C'est le temps de l'offrande et vous savez que dans ce temps particulier, nous ne faisions déjà pas le passage parmi les rangs au temple. Aujourd'hui, vous avez plusieurs possibilités pour ce faire. La première, c'est de déposer votre offrande dans une enveloppe que vous rapporterez quand nous pourrons de nouveau nous réunir. Une autre possibilité, c'est d'envoyer un chèque à l'ordre de l'Église protestante unie de Robinsault, au 36 rue Longuet. Soit l'envoyer par la poste, soit si vous êtes dans le kilomètre autorisé de sortie, le déposer directement dans la boîte aux lettres du temple. Vous pouvez également effectuer un virement sur le compte de la paroisse dont les références sont indiquées dans le 702, que je pense la plupart d'entre vous reçoivent. Et puis, vous pouvez également faire un don en ligne sur la page de la paroisse sur le site de l'Église protestante unie de France. Le lien est également disponible sur le site dédié de la paroisse. Et nous prions pour cette offrande, pour ce temps que nous donnons. Seigneur, voici cette offrande que nous te présentons. Nous la consacrons au service de l'Évangile. D'un cœur reconnaissant, nous nous remettons à ta bonté. Merci, notre Dieu, pour tous tes bienfaits. Amen. Avec ce partage de nouvelles, je vous invite à la prière. Les uns pour les autres. Père, ta parole nous a redit ton amour pour ce monde, pour toutes et tous, jusque dans nos plus grandes faiblesses. Ta bonté insaisissable est si grande que tu nous permets de t'invoquer comme notre Créateur, notre Père, notre Sauveur. Tu nous connais toutes et tous et tu nous aimes toutes et tous au-delà de ce qui est concevable pour nous. Tous nos chemins sont devant toi, nous venons de toi et nous pouvons aller à toi. Nous déposons devant toi tous nos soucis afin que tu t'en préoccupes. Notre inquiétude afin que tu l'apaises. Nos espoirs et nos vœux afin que soient faites ta volonté et non la nôtre, nos pensées et nos désirs, toute notre vie terrestre, afin que tu la conduises à la vie éternelle. Sois avec tous les nôtres, avec les pauvres, les malades, les opprimés et les affligés, avec toutes les personnes que nous te nommons dans le secret de nos cœurs. Éclaire les pensées et dirige les actes de celles et de ceux qui, dans notre pays et dans le monde, sont responsables du droit, de l'ordre et de la paix. Et comme Jésus l'a enseigné à ses disciples, nous te disons, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles.
Amen.
Amen. Chers amis, vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde, nous dit le Christ. Ne nous cachons pas sous le boisseau. Mettons en lumière ce lien à Dieu qui nous fait vivre. Recevons la bénédiction de la part de Dieu. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous et avec celles et ceux que vous aimez dès maintenant et pour l'éternité. Amen.
Saint-Esprit, viens par ton vent remplir le temple que je suis. Oh, viens, Saint-Esprit, souffle puissant, brise d'amour, courant de vie. Souffle sur moi, souffle sur moi, souffle. Souffle sur moi, souffle sur moi, souffle. Souffle sur moi, souffle vent de Dieu.